Bonjour à tous. Alors hier, je vous avais parlé des trois façons de rentrer dans un thème, c'est-à-dire la version classique d'un astrologue également occidental, j'ai envie de dire, puisque cette façon consiste à rentrer dans le thème en se demandant qui on a en face de nous, voilà, pour pouvoir ensuite adapter son discours et puis regarder un petit peu ce qui intéresse cette personne. Donc comment on fait ça? C'est ce que je vous enseigne durant les formations, par la Lune, par le maître de 1, principalement. Et puis évidemment les planètes en maison 1, mais les planètes en maison 1 sont dépendantes du maître de 1. Donc le dispositeur aura ici bien sûr toute son importance durant cette étude. Quand on étudie le maître de 1 et la Lune, on étudie évidemment l'état planétaire. On étudie donc domicile, exaltation, chute, moula tricona, planète amie, planète ennemie. On étudie les aspects reçus, donc conjonction, aspect unilatéral, aspect mutuel. Tout ça est à prendre en considération. Évidemment, on peut aller un peu plus loin et si vous connaissez quelques yogas, quelques combinaisons, évidemment, vous pouvez les ajouter à votre panel. Et c'est là que vous allez pouvoir, on va dire, aller beaucoup plus dans la nuance, beaucoup plus dans ce qui est marquant également, hein, dans le thème. Donc ça, c'est vraiment la première chose quand on est dans le thème, c'est vraiment la version classique, comme j'ai envie de le dire. Donc par la Lune, par le maître de 1. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. On regarde le signe, la Lune en poisson, bon ben voilà, elle est dans l'humidité, donc elle va bien se sentir, donc elle va faire preuve d'imagination, etc. La lune en bélier, elle sera beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, dans cette idée d'exalter ses émotions, de vivre une vie passionnée, une vie faite de défis, une vie faite de jeux, hein. Donc, ça, c'est à apprendre, évidemment, la place de la lune dans les signes, et je ferai une série sur l'académie, donc une série de podcasts sur la lune dans les signes. Après quoi, on va regarder la lune dans les maisons. Puisque la lune dans le signe, évidemment, ça a son importance. Comme chaque planète d'ailleurs. Mais ce qui est peut-être encore un peu plus important, ça va être la lune dans les maisons. Puisque les maisons vont donner le domaine en question et le signe, ça va être ultra important. Pourquoi? Pour le dispositeur. En étudiant le maître, donc le dispositeur de la Lune, on va avoir des informations complémentaires au niveau de la gestion de l'état d'esprit, des émotions et de la mer, qui sont quand même extrêmement, sont quand même des domaines extrêmement importants lorsqu'on étudie un thème. Le signe, évidemment, aura son importance pour, on l'a vu, l'état planétaire, l'amitié, inimitié, etc. Mais également, ça va nous donner l'ambiance, l'atmosphère de la planète qui occupe ce signe. C'est-à-dire que ça répond à la question à travers quoi? C'est vraiment cette idée-là. Par exemple, la Lune en maison 8, ben voilà, la personne est attirée par la recherche à travers quoi? Si c'est en Verseau, ce sera peut-être à travers l'astrologie, à travers la musique, à travers la fraternité, les communautés, à travers peut-être les sociétés secrètes. Puisque la fraternité, la communauté et en même temps la maison 8, là on a bien une analogie avec les confréries, avec les petits comités un peu cachés, un peu secrets. Évidemment, si c'est par exemple la Lune, je sais pas, en maison 9, mais que cette maison 9, elle est en taureau, ben ça va pas du tout être pareil qu'une maison 9 en poisson. Puisque la maison 9 en poisson, ça va vraiment être un grand idéal. Cette idée que, et là on recherche l'analogie entre les poissons et la maison 9, c'est-à-dire l'imagination, l'idéal, la spiritualité. Donc ici, ça va être une lune en 9, une personne qui sera très candide, qui sera en poisson évidemment, qui sera très candide, qui sera très dans l'amour universel, et qui souffrira très certainement, selon l'état de la Lune, mais qui souffrira très certainement de désillusions. Alors que la Lune en maison 9 en taureau, exaltée en taureau ici, là c'est différent. Là ça va nous renseigner sur des voyages plus, sur un confort, sur la chance, maison 9, à travers quoi ? À travers le confort matériel, l'argent, la tradition, la famille. Maison 2, taureau, deuxième signe, par analogie. Vous voyez un petit peu comment on fait, c'est-à-dire que on va rechercher l'analogie entre la planète, la maison et le signe. La maison va nous renseigner sur le domaine en question, c'est-à-dire sur le quoi. Le signe va nous renseigner sur le à travers. Voilà, c'est presque le comment, si vous voulez. Même si le comment, il est beaucoup plus détaillé, évidemment, dans les divisions zodiacales. Donc ça, c'est vraiment la première façon de faire. La deuxième, on l'a plus ou moins évoquée, c'est, on va dire, une bonne connaissance des nakshatras. Donc la première, c'était vrai pour l'occidental ou la védique. La deuxième, elle est uniquement védique. C'est un peu la version avancée, si vous voulez. On regarde le maître de 1, on regarde le nakshatra. Bon. Et là, déjà, ça nous dit énormément de choses. Ensuite, on compare ce nakshatra du D1 avec le nakshatra du Navamsa. Et là, on a des secrets, là. Là, on voit les conditionnements de la personne et ce qu'il va devenir et ce qu'il va faire de ces conditionnements. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement avancé, puisque ça demande une excellente connaissance des nakshatras. Et c'est comme ça que les astrologues védiques, vous prenez Kapil Raj, vous prenez Ernst Wilhelm, vous prenez voilà, des grands noms de l'astrologie védique, Marc Bonnet, même si Marc il utilise beaucoup les yogas, mais quand même. C'est vraiment comme ça qu'ils vont rentrer dans le thème et qu'ils vont trouver des choses extrêmement précises. Si vous regardez un petit peu hein, les commentaires sous les vidéos ou par exemple sur Facebook de KRS Channel, donc Kapil Raj, vous verrez que les gens, 99% des gens disent « Incroyable, quelle précision, quelle pertinence dans ses propos, tout ce qu'il dit, c'est avéré vrai, etc. etc. » Donc on voit qu'il y a vraiment une puissance avérée avec les nakshatras, évidemment. Donc ça, c'est en second lieu, quand on a déjà une bonne maîtrise de la première étape, la version classique qui peut déjà suffire à elle-même, évidemment. Puisqu'en astrologie occidentale, on n'utilise que ça. Enfin, évidemment, on utilise autre chose, mais on n'utilise pas les nakshatras. Et puis enfin, la version consultation par la question posée. Personne ne veut savoir quand est-ce qu'elle va déménager, je ne vais pas aller trifouiller ses nakshatras. Je ne vais pas aller regarder sa lune, etc. Sauf si, évidemment, il y a un rapport avec la maison 4 et la maison 3. Mais je vais surtout regarder justement la maison 3, la maison 4, les dispositeurs, le système de Krushna, et puis si vraiment c'est dans l'urgence, je fais un thème horaire. Donc là, on n'a pas encore vu le thème horaire, je ne l'ai pas encore enseigné, je n'ai pas encore fait de cours dessus, thème horaire védique. C'est pas pour tout de suite, je vous avoue, mais voilà, j'y songe quand même, à un moment donné, je ferai une formation dessus. Mais la version consultation, c'est vraiment, je réponds à une question, je focalise mon attention sur une question. Et je focalise évidemment mon étude sur cette question pour y répondre. Donc là, c'est vraiment un autre travail, quand on est en consultation. Et évidemment, si les gens viennent, bonjour, je voudrais simplement un thème natal complet, comme ça m'arrive 80% du temps, sans questions précises, ou alors des questions très, très banales, hein, carrière, vie sentimentale, famille, bon, bah là, on fait un thème classique. Donc moi, le thème classique, c'est quoi ? Je regarde qui j'ai en face de moi, je fais 20 minutes ou 25 minutes de personnalité, de comportement, de force et faiblesse, de vocation, de planète en chute, planète exaltée, de force planétaire, etc. De manière très sommaire. Donc ça, souvent, la personne est très bluffée, Non pas parce que je suis un grand astrologue, mais parce que j'arrive à prioriser facilement. Et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, on peut dire des choses très très simples. Donc justement, comme je vous ai dit, soit avec les nakshatras, soit avec les dispositeurs, les maisons, les signes de la lune, du maître de 1. Et puis, ensuite, j'attaque les domaines en question. Souvent, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein, l'être humain, voilà, tous quasiment la même existence, c'est-à-dire les grands domaines de vie. Donc la santé, que je fais quasiment à chaque fois. Vie sentimentale, carrière, finance. Point. Si la personne veut aller plus loin, spiritualité, et c'est tout. Famille. Alors souvent, je rajoute une prestation quand c'est la famille, quand c'est les petits-enfants, quand c'est les enfants, etc. Puisque ça nous fait dépasser une heure. Moi, ça me fait dépasser une heure. Sauf si la personne vient me voir et me demande simplement une question ou deux sur les enfants ou la famille. Là, évidemment, je ne vais pas faire la santé, je ne vais pas faire la carrière. Je vais simplement focaliser mon attention sur ce qu'elle m'a demandé. Ce sont des choses qui peuvent paraître très... être du bon sens, très sommaire en fait, mais je trouvais ça essentiel quand même de vous le partager. Voilà. Demain, on travaillera encore un peu sur la consultation. Je trouve ça quand même important. Je vous partagerai ma vision. Je vous partagerai les trois piliers de la divination que j'ai déjà évoqués, intuition, savoir-faire, savoir. Et je parlerai aussi des cinq clés pour devenir un astrologue compétent. À demain!